Dan Gagnon pour le podcast Tout seul, c'est le numéro 38. Je l'ai reporté à quelques reprises, mais ça y est, aujourd'hui, on parle des plus grandes malédictions dans l'histoire du sport. Et avant de commencer, je prends un moment pour remercier tous ceux qui soutiennent le podcast. Merci beaucoup, que ce soit en vous abonnant sur Spotify, que ce soit en le partageant aussi, en parlant autour de vous, en disant « Ah tiens, cet épisode-là pourrait t'intéresser ». Ça fait une grande différence pour moi et évidemment un merci tout spécial à ceux qui sont abonnés au Patreon, donc patreon.com/DanGagnonPodcast. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un site qui permet de... En gros, donner des sous à des créateurs que t'aimes. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui supportent financièrement le podcast. Ça me permet de passer un peu plus de temps, faire un peu plus de recherches et dépenser un peu plus de thunes. Bon, les malédictions, c'est pas nécessairement aujourd'hui toutes les plus grandes. Moi, j'en connaissais 3-4. Puis avant de faire l'épisode, donc je vais sur Internet, je me prépare, j'essaie de regarder un peu. Et juste, en fait, Wikipédia a un article qui s'appelle carrément « Les malédictions dans le sport », et ils ont, honnêtement, on doit approcher la centaine. Et c'est incroyable la quantité et toutes des histoires intéressantes dans des pays différents, des sports différents. Et j'ai essayé d'en choisir, ben, que je connaissais un peu plus déjà, et pour lequel il y avait quelques retournements rocambolesques de situations. Donc voici ma sélection, et on commence avec la malédiction de Drake. Oui, le rappeur canadien Drake. C'est un très gros fan de sport. Il suit les sports de combat, le soccer, donc le football. Il suit aussi beaucoup le basket, que ce soit collégial ou que ce soit professionnel. Et c'est un fan, entre autres un fan fini des Raptors de Toronto, comme forcément il vient de Theo. Et à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à compiler les photos de Drake avec des gens qui avaient perdu après. Ils ont fait ça avec beaucoup de joueurs qui étaient en Champions League. Et tu fais photo de Drake avec un tel, résultat, défaite de City, de Liverpool, du PSG. Il y a une photo de lui avec Conor McGregor, donc le combattant irlandais, qui juste avant son combat contre le russe Nurmagomedov, il y a une photo de Drake avec le drapeau irlandais autour de lui. McGregor a perdu au quatrième round. Et je sais qu'il y a des commentateurs à Toronto qui, à chaque fois que les Raptors, donc l'équipe de basket de Toronto, perdaient, rappelaient le Drake Curse, donc la malédiction de Drake, over and over. Et il y a un an ou deux, les Raptors ont eu une saison exceptionnelle et ils ont éliminé les 76ers de Philadelphie. Et Drake est allé sur Instagram pour montrer une photo de lui, en train de regarder le match chez lui, et sous ses vêtements, il y avait un short des 76ers. Le gars a utilisé la malédiction de Drake contre l'équipe adverse. Et ça, si c'est pas un signe de l'intelligence supérieure des Canadiens, au diable la dépense. Donc voilà. De là, je trouvais quand même vraiment marrant le fait que lui-même s'en serve. Il y a quelque chose d'assez marrant aussi en foot américain. La malédiction de Madden. John Madden est un coach célèbre de l'histoire de la NFL et encore plus un commentateur complètement légendaire dans l'histoire de la NFL. Et si vous avez déjà joué à un jeu vidéo de NFL, il y a très forte chance que ce soit le jeu de Madden. Par contre, on dit qu'il y a une malédiction avec le fait de faire la couverture du jeu Madden. Et il y a eu des analyses des 25 dernières années où on dit genre il y a 15, 16, 18, 20, 22, dépendamment comment tu calcules, gens qui ont soit eu des grosses blessures, une baisse incroyable de leur performance, pris une retraite complètement anticipée et inattendue dans le cas d'un autre joueur. Et encore une fois, je veux dire, les sportifs sont forcément quand même assez superstitieux. Et ça a commencé genre, oh, peut-être que, puis se mit à la blague, et c'est devenu tellement gros qu'il y a quelques années, le producteur du jeu, donc EA Sports, a fait une annonce officielle pour dire que c'était pas un vrai truc, la malédiction de Madden. D'un côté, ils disent ça, un peu en disant, ouais, c'est un peu ridicule, et de l'autre côté, et le projet a été abandonné depuis, mais ils voulaient faire un film sur la malédiction de Madden, c'était en développement. EA Sports, ou EA tout court, voulaient se lancer dans l'industrie du cinéma et il y avait l'idée d'utiliser la malédiction de leurs jeux vidéo pour faire un film, quoi. Qui aurait certainement été. J'allais dire, il a sûrement été mauvais, mais c'est un jugement de valeur de ma part parce que n'importe quelle idée peut être bien, c'est bien écrite, mais quand tu voyais les premiers pitchs, c'était vraiment genre, un ancien joueur ou joueur de jeux vidéo, on ne sait même pas, est sorti de sa retraite, puis là, il se rend compte avec effroi que EA Sports l'a mis sur la jaquette, sur la couverture du jeu, et donc il pense qu'on est là pour le détruire, et voilà. Ça peut être bien, c'est pas insurmontable, mais il y a probablement d'excellentes raisons pour lesquelles ce film n'a jamais vu le jour. Qui sait, une pièce de théâtre peut-être, un podcast, une fiction, pourquoi pas. J'avoue, je le regarderai, ou je l'écouterai. Par contre, dans les dernières années, ça a été quand même un peu mieux. T'as eu Tom Brady qui a fait la couverture. Tom Brady, c'est une spéciale genre GOAT, G-O-A-T, donc le Greatest of All Time. Et cette année-là, il a gagné le Super Bowl. Il y a eu Patrick Mahomes, même principe. Et donc celui qui est déjà sur la couverture pour 2021, il dit « J'espère qu'il y a une malédiction. Si je peux avoir la même que Patrick Mahomes, moi, ça m'arrangerait. » Même si à ce stade-ci, on ne sait pas encore s'il va avoir de 16. La malédiction de Talladega. Talladega, c'est un circuit de NASCAR hyper célèbre. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs quand je parlais des superstitions. Mais il se passe toujours des choses très étranges, des accidents particuliers. Dans les années 70, donc 70, t'as même un conducteur qui a arrêté la course en se disant genre, nah, j'entends des voix dans ma voiture, puis il s'est cassé. Et donc forcément, la légende grandit. Et l'histoire de Talladega, c'est qu'il y a plus d'un siècle, le président de l'époque avait forcé une communauté amérindienne à quitter cet endroit-là. Le circuit a été créé seulement plusieurs années plus tard, à la fin des années 60, mais la légende raconte qu'en quittant le lieu, les Amérindiens donc, ont été chassés, et un des médecins de la tribu s'est retourné une dernière fois et aurait jeté un sort sur le circuit. Bon. On peut dire que ça vaut ce que ça vaut. Mais là où ça devient quand même assez fascinant, c'est que dans les années 2000, les gens de Talladega ont engagé un espèce de guérisseur local pour essayer de lever la malédiction de Talladega. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que la malédiction existait vraiment? Est-ce que tout ça, c'est de l'excellent contenu pour un podcast? Je vous laisse répondre aux questions vous-même. Un truc semi-plus léger, la malédiction des Honey Bears. Encore une fois, on est en NFL et les Bears de Chicago sont une des franchises vraiment historiques de la NFL. Et le propriétaire et le fondateur donc historique, c'est George Halas. Il est mort en 1983 et c'est sa fille qui a pris les rênes de l'équipe et elle a voulu faire quelques changements. Le premier, c'est se débarrasser des Honey Bears. Les Honey Bears, c'était l'escouade de cheerleading que son père avait amené dans les années 70-70, je crois, en les rendant un peu plus sexy qu'athlétiques, disons, pour essayer d'attirer le chaland. Sauf que le contrat allait jusqu'à la fin de 1985. Cette année-là, les Bears ont gagné le Super Bowl. L'année d'après, les Honey Bears étaient disparus. Est-ce que les Bears ont regagné le Super Bowl depuis? Mais non. Sinon, c'est vraiment pas. Sinon, il n'y a rien dans cette anecdote. Sinon, il n'y a pas. Sinon, ça ne valait pas une ligne. Donc voilà. Moi, je pense que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de remettre des filles en bikini, I guess. Mini parenthèse sur le cheerleading. Apparemment, il y a des lois dans les équipes où les joueurs d'une équipe n'ont pas le droit de sortir avec des cheerleaders de la même équipe. Les pom-pom girls ou les meneuses de claque, je crois qu'on dit au Québec. Et double mini-parenthèse, je sais que dans voilà, l'imagerie collective, parfois, elles peuvent avoir l'air de juste être là pour leur physique, des espèces de semi-strippers, finalement. Mais holy cow, les performances que font les cheerleaders, c'est exceptionnel. Et si vous n'avez jamais vu ça sur Netflix, je crois qu'il y a quelques documentaires là-dessus, pas les films, là, mais les documentaires, les prestations athlétiques sont absolument impressionnantes. C'est des gymnastes, en gros, c'est merveilleux. Je sais pas s'il y a juste moi qui ai découvert ça il y a genre pas très longtemps et que tout le monde le sait depuis 8000 ans, mais quand j'étais à l'université, il y avait une escouade de meneuses de claque pour l'équipe de football de l'université. Et ça, ils faisaient des compétitions et ça m'avait super fort impressionné de voir leur niveau. Est-ce que vous connaissez John Safran? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est une personnalité médiatique australienne qui a fait parler d'elle dans le monde du sport en 2004, dans son 7e épisode d'une série qui s'appelait John Safran vs. God. Il est allé au Mozambique pour essayer de réparer une erreur faite par des joueurs de soccer australiens, donc football australien. Essayer de lever une malédiction qui était sur l'équipe depuis les années 70, donc 70. L'histoire en question a été racontée dans la biographie de Johnny Rauren, sortie en 2002. Pendant la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, pour s'y rendre, pour s'y qualifier, les Australiens ont dû aller jouer une partie au Mozambique. Quelques joueurs de l'équipe ont décidé d'aller voir un espèce de médecin sorcier en demandant si c'était possible de jeter une malédiction contre l'équipe du Mozambique. Le médecin sorcier accepte, enterre quelques os près du goal et dit « C'est bon, j'ai jeté une malédiction sur eux, vous allez gagner. » Résultat, l'équipe nationale d'Australie remporte une victoire de 3-1. Le problème, c'est que le médecin sorcier a ensuite demandé son paiement qui était de 1000 pounds. Et les joueurs ont fait « Ouf, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. » Le médecin sorcier a dit « C'est pas grave, je vous jette une malédiction. » Et pendant 32 ans, l'Australie ne s'est plus qualifiée pour la Coupe du monde de soccer. Ils ont perdu dans le dernier match en 94, 98, 2002. Et quand on parle de cette malédiction-là, on fait surtout référence au match nul qu'ils ont fait contre l'Iran en 1998, donc 98, alors qu'ils menaient 2-0 dans la deuxième mi-temps au dernier match de qualification. Ils ont finalement fait match nul et ils n'ont pas réussi à se qualifier. Donc, en 2004, John Safran se dit « Il faut que je fasse quelque chose ». Il est allé jusqu'au Mozambique. Il a engagé un nouveau médecin sorcier pour renverser la malédiction. Et vous savez quoi? Eh bien, en 2006, les Australiens sont rendus en deuxième ronde. En 2010, 2014 et 2018, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, merci, John Safran. Et la dernière histoire que je vais vous raconter pour moi, c'est peut-être la plus complexe et la plus belle. Billy Sianis était le propriétaire d'une taverne qui s'appelle les Billy Goat Tavern. Ça, c'était à Chicago dans les années 40. Et puis, le 6 octobre 1945, il décide d'aller voir un match de la Série mondiale de baseball. Donc, c'est la grande finale. Une équipe doit gagner 4 matchs sur une possibilité de 7 ou 5 sur une possibilité de 8 en fonction des années. Et lui, il se présente, Billy Goat Tavern, donc il se présente avec son goat, donc son bouc, sa chèvre. Et à l'entrée, on lui dit, écoute, c'est parce que les dernières fois quand tu es venu avec ta chèvre, les gens se sont plaints des odeurs. Donc, ce qu'on t'a demandé, c'est soit tu laisses ta chèvre ici, soit tu ne peux pas rentrer. Donc, Billy Sianis le prend très, très bien et repart chez lui en criant « Vous n'allez plus jamais gagner la Série mondiale !» Série mondiale qu'il n'avait pas gagnée depuis 1908. Eh bien, ils ne l'ont pu regagner jusqu'en 2016. Et au début, c'était rigolo. Ah, curse of the goat. Mais à un moment donné, les gens à Chicago ont commencé à trouver ça pas mal moins drôle. Ce qui fait qu'ils ont même essayé de renverser la malédiction en engageant le neveu de Billy Sianis, Sam Sianis, et en le faisant assister au match d'ouverture en 84 et en 89 au stade mythique du Wrigley Field, à chaque fois il entrait sur le terrain et directement, et il y avait un book avec lui. Ils l'ont refait en 1994-94, ça n'a pas fonctionné. En 1998-98, ça n'a pas fonctionné non plus. Au point où Sam Sianis a finalement déclaré que la malédiction, ben, le problème, c'est qu'elle ne pourrait jamais être renversée tant que les Cubs n'auraient pas un amour désintéressé et sincère pour les chèvres. Et les pauvres Cubs, c'est pas la seule malédiction qui leur est tombée sur le coin de la tronche. Il y en a une autre vraiment, vraiment particulière, celle de Steve Bartman. Steve Bartman est un fan des Cubs de Chicago. Il s'assoit avec sa casquette, ses écouteurs dans les oreilles pour écouter la description. Il y a un siège collé sur une des balustrades. La façon dont ça fonctionne au baseball, si tu frappes la balle et que l'équipe adverse l'attrape avant qu'elle touche au sol, le joueur est éliminé, si on résume. Parfois, la balle va aller du côté des spectateurs, mais il y a un joueur qui est encore capable d'aller l'attraper au vol. À ce moment-là, ça compte quand même. Le joueur est quand même éliminé. Donc, on se retrouve dans un match numéro 6. Je crois que c'est 2008, si ma mémoire est bonne. On est au Wrigley Field, donc le stade légendaire des Cubs de Chicago. Et les Cubs sont en bonne voie pour pouvoir vaincre les Marlins de la Floride. Et puis, tout à coup, il y a une balle qui est envoyée, qui est frappée. Et elle est un peu sur la limite entre la clôture et la balustrade, donc le terrain. Steve Bartman ne regarde absolument pas ce qui se passe à part la balle. Il a son gant, il chope la balle. Le joueur face à lui, donc le joueur qui aurait pu attraper la balle, Moise Alou, on le voit à la télévision taper son gant de frustration, engueuler un peu la foule. Après, quand il y a eu des espèces d'instant replay dans le stade, les gens se sont mis à huer et à crier sur ce pauvre Steve Bartman qui a dû être escorté à l'extérieur par les forces de police et la sécurité dans le stade. Finalement, les Cubs de Chicago vont perdre la série. Et le pauvre Steve Bartman devient persona non grata à Chicago, au point où l'équipe même des Cubs doit publier un communiqué en disant « Les Cubs de Chicago tiennent à remercier leurs partisans pour leur encouragement cette année. Nous voudrions aussi rappeler à tous que les matchs sont décidés par ce qui se produit sur le terrain, non dans les gradins. Il est inexact et injuste d'insinuer qu'un seul individu est responsable des événements qui se sont produits lors du match numéro 6. Il agit de la manière dont agit chaque fan présent au stade en essayant d'attraper une balle depuis son siège. C'est une des choses qui fait du baseball un sport spécial. » Ce qui est tout à fait vrai. Il y avait autour de lui plein de gens qui essaient de faire exactement la même chose. Le commissaire du baseball de l'époque, Bud Selig, a aussi déclaré en interview « Bien que je comprenne la réaction des amateurs, blâmer un jeune homme qui est le plus ardent défenseur des partisans des Cubs est injuste. De lire ses explications m'a brisé le cœur. » Bartman est devenu une espèce de figure populaire. Je me demande si genre dans Family Guy, il n'est pas représenté. La balle qu'il avait captée en soi a été vendu aux enchères en 2003. Donc, ça s'est passé bien avant... J'ai dit 2008, c'était absolument pas vrai. Donc, il a vendu la balle aux enchères en 2003. Elle a été achetée pour la somme de 113 824 $ par Grant DePorter, qui est un restaurateur de Chicago, et qui a décidé de la faire détruire le 26 février 2004 devant les caméras de télévision par un expert des effets spéciaux. À l'époque, c'était tellement intense pour Bartman que Jeb Bush, qui était le gouverneur de l'État de la Floride, avait offert l'asile politique à Steve Bartman. Et le gouverneur de l'Illinois de l'époque avait même suggéré que Bartman soit placé sur un programme de protection des témoins. Donc, déjà, il faut se calmer, première des choses. Et ensuite, non. Finalement, en 2016, après une série exceptionnelle, les Cubs de Chicago ont finalement remporté la Série mondiale. Première victoire, donc, en 108 ans. Ils ont brisé la malédiction de la chèvre. Et dans la bague que l'on donne à chaque joueur qui a remporté la Série mondiale, à l'intérieur, une silhouette de tête de bouc a été gravée pour se rappeler de ce qu'était la malédiction de la chèvre. Le 31 juillet 2017, les Cubs de Chicago ont décidé de remettre loin des caméras, simplement dans une rencontre privée dans les bureaux du président de l'équipe. Ils ont remis à Steve Bartman une bague de champion de la Série mondiale 2016 sur laquelle son nom est gravé. Et si ça, c'est pas la meilleure façon de boucler toutes les boucles, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. Rendez-vous au numéro 39.